I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. C'est comme d'habitude Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'un millésime de cinéma avec un invité. Et ce mois-ci, mon invité est entre autres l'auteur des ouvrages Ichiro Honda, Humanisme Monstre et Kaiju, Envahisseur et Apocalypse. Vous avez également pu admirer sa plume dans les revues Rokirama, Otomo et Mad Movies ou le voir apporter son analyse dans les éditions DVD de chez Carlotta, Spectrum Film, Extra Lucid Film ou encore Elephant Film. Cet invité aux multiples talents, c'est Fabien Moreau. Salut Fabien.
Salut Thibaut.
Comment tu vas ?
Bah écoute, très bien, je suis à tes côtés. Merci de me recevoir, je suis honoré d'être... au cœur de cette année lumière.
Eh ben merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Je suis très 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 heureux de t'avoir dans l'émission. Et en plus, on va parler d'une année pas comme les autres, riche en événements et en films assez géniaux. Justement, comme je viens d'en parler, ce mois-ci avec Fabien, on va se balader dans une année toute proche, familière pour certains, et qui va marquer la fin d'une décennie, mais aussi de tout un monde. Comme un symbole de renouveau, un genre moribond va faire son retour à l'écran, lancer une véritable mania et ouvrir les horizons de nos imaginaires. Pendant ce temps-là, une génération de génies à l'autre bout du monde s'amuse avec les codes et accouche d'images jamais vues. Et l'homme derrière E.T. et Indiana Jones arrive, lui, à un tournant intime de sa carrière. Bref, aujourd'hui, on parle de l'année 1989. Like a Prayer, chanté par Madonna, on écoutait ça, on dansait sur ça en 1989. Alors pourquoi avoir choisi cette année-là, 1989, Fabien ?
Bah écoute Thibaut, j'ai choisi cette année 1989 parce qu'elle est liée à mes premiers souvenirs de vie. Mmh. Voilà, j'entrais à la maternelle en cette année 1989, en septembre 89. Et donc, elle est liée...
Donc, tu es extrêmement jeune.
Oui, tout à fait. Et donc, elle est liée intrinsèquement à un film dont on va évoquer aujourd'hui, ouais. En fait. Et c'est vrai que, si je peux me permettre une petite anecdote...
Je t'en prie.
Bon, il faut savoir que, donc, en préambule du film dont on va parler tout à l'heure, il se trouve que je me souviens, quand j'étais petit, je regardais FR3 et à l'époque, ils diffusaient la série Batman de 1966, la série avec Adam West qui était rediffusé à cette époque-là. Donc je suis devenu un fan de Batman à 4 ans.
Devant le poste.
Devant le poste, je m'émerveillais de voir Adam West et Burt Ward affronter le Joker, le Pingouin, Catwoman dans leurs aventures colorées. Et je me souviens donc je vivais dans le sud de la France à cette époque-là, hier dans le Var. Et j'arpentais les rues de la ville avec ma maman et ma grand-mère. Et là, on passait devant un cinéma qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait à l'époque l'Éden. C'est un cinéma qui ressemblait à un petit temple grec. Et donc là, on passe devant le cinéma et je tourne la tête et je vois un poster.
Et pas n'importe quel poster.
Pas n'importe quel poster, puisque je vois cette espèce de plaque ovale orange-jaune sur lequel se dessine cette forme de chauve-souris. Et là, je reconnais immédiatement le logo de Batman. Donc, j'ai 4 ans et j'identifie le personnage de Batman rien que par le logo.
Fou.
Et je dis à ma mère, maman, il faut absolument que je voie Batman. Il y a Batman au cinéma et j'en peux plus. En fait, j'entre en ébullition. Et ma mère me dit, écoute, peut-être que ce Batman-là, il n'est peut-être pas pour toi. Peut-être que tu es un peu jeune pour le voir. Et je crois que c'est en fait mon premier souvenir de cinéma.
Un film que tu n'as pas vu finalement.
Et que je n'ai pas vu en salle, en fait. Voilà. Ouais. Mais c'est un souvenir d'un poster, d'un logo et du lieu. du lieu cinéma, en fait.
C'est formidable.
Souvenir magique.
Bah, du coup, on va justement parler de cette capacité d'évocation dont tu as parlé là. Mais oui, c'est assez fou comme souvenir. Bah, tu l'as dit, 89, toi, tu étais en maternelle. Moi, c'est mon année de naissance, donc j'avais vraiment...
Très bonne année.
Voilà, c'était une excellente année en tout point. Alors, 89, pour remettre un petit peu de contexte pour nos auditeurs, c'est l'année... Souvenez-vous de la chute du mur de Berlin et de la fin de la guerre froide, du massacre de la place Tiananmen à Pékin qui fera des milliers de morts et de blessés, et de la révolution roumaine qui renverse le dictateur Nicolae Ceausescu. C'est l'année aussi du début des Simpsons de Matt Groening, de l'animé Dragon Ball Z ou encore de la sortie au Japon de la Game Boy de Nintendo. Mais 89, c'est aussi et surtout du cinéma et on est là pour ça. Cette année-là, les spectateurs faisaient le plein de suites et allaient voir SOS Fantôme 2, Retour vers le futur 2, L'Arme Fatale 2, Indiana Jones 3 ou encore Karate Kid 3. Ils s'émerveillaient devant Abyss de James Cameron, pleuraient devant le cercle des poètes disparus et rient aux éclats face à quand Harry rencontre Sally. Cannes donnait la palme à Steven Soderbergh pour Sexe, Mensonges et Vidéos, Spike Lee faisait son Do the Right Thing, et le ciné d'animation brillait avec La Petite Sirène et Kiki la Petite Sorcière des studios Ghibli. Mais cette année-là, tu l'as dit Fabien, un film plus que tous les autres affole les foules. Il n'est pourtant pas d'un genre très noble à l'époque, son héros n'est pas des plus affables et son réalisateur encore méconnu. Pourtant, tout le monde en parle et l'hystérie qu'il déclenche déborde de l'écran de cinéma pour arriver dans les livres, les jeux vidéo, à l'école, à la maison, bref, partout. Ce film phénomène qui est au cœur de notre premier thème, c'est bien évidemment Batman. Cette musique, vous l'avez reconnue, bien sûr, c'est le thème principal du film Batman, musique composée par Danny Elfman. Alors Batman, c'est le film de 1989, réalisé par Tim Burton avec Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger. C'est évidemment, je vais rapidement mettre un contexte, mais vous le connaissez tous, c'est adapté du personnage culte créé par Bob Kane et Bill Finger en 1939. Et ce film, Batman, réalisé par Tim Burton de 31 ans, il est encore tout jeune, et il est à l'époque assez méconnu puisqu'il n'a réalisé que... Pee-wee Big Adventure et Beetlejuice, qui était un film quand même indépendant, une belle surprise, mais encore malgré tout assez confidentiel par bien des aspects. Et Batman va tenter, en cette année 89, une adaptation d'un genre moribond, qui est le genre du film de super-héros, la comic book adaptation, qui en 89 n'est pas vraiment en bonne forme. Justement, Fabien, dans quel état le genre du film de super-héros se trouve quand arrive Batman ?
Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de genre de film de super-héros, dans la mesure où il y a une seule franchise qui incarne le genre à cette époque-là, puisque c'est la franchise de Superman, qui était amorcée en 1978 avec le merveilleux film de Richard Donner, donc franchise portée par Christopher Reeve, qui va se décliner avec le très beau Superman 2, le discutable Superman 3, qui reste quand même très qualitatif, mais qui pêche par son scénario. Et pour le quatrième film, c'est la Canon qui se charge de produire Superman 4, qui malheureusement est un film assez problématique. Ouais. Canon Film, qui cherche à l'époque à monter un projet de film de Spider-Man, mais on voit bien qu'il n'arrive pas.
Avec James Cameron.
Voilà, avec Toby Hooper.
Etc.
On a quelques expérimentations à la télé. On a notamment une série Superboy qui est assez réussie, qui est produite justement par les producteurs historiques de Superman, des Saul Kain. Et la fameuse série L'Incroyable Hulk s'arrête est tournée de 1977 jusqu'en 1982 et reprendra en 88 à la faveur de trois téléfilms, donc toujours avec Bill Bixby et Lou Ferrigno entre 88 et 90. Mais par contre, c'est vrai que raconter la genèse de ce film Batman, c'est un marathon. Puisque le film va mettre 10 ans à se faire.
Comme tu le dis, quand Batman arrive en 89, le genre de super-héros finalement n'en est pas un en tant que tel. Il y a eu effectivement quelques films fameux, mais c'est un genre qui dans les années 80 a plutôt enchaîné les séries B très passables, voire catastrophiques, plutôt que s'imprimer dans la mémoire collective. Et quand Batman sort le 23 juin 89, un peu contre le cours de l'histoire, c'est un succès fou. Il va avoir un box-office mondial de 411 millions de dollars. Donc c'est le record du premier week-end aux États-Unis, devant Indiana Jones 3, devant SOS Phantom 2. Donc c'est le premier film à atteindre les 100 millions de dollars en 10 jours. Donc il marque comme ça des jalons impressionnants dans l'histoire du cinéma. Et c'est même à l'époque, quand il sort, le cinquième plus gros succès de l'histoire à l'époque pour un film. Donc on passe quand même d'un genre, d'un type de film qui est inexistant ou complètement oublié et mis sur le côté à tout de suite un film qui arrive dans les hautes sphères de l'histoire du cinéma. D'ailleurs, il va être le lauréat d'un Oscar, celui de la meilleure direction artistique pour Anton Furst et Peter Young. Et il connaîtra, vous le savez très bien, trois suites directes, on va dire, Batman le défi en 92, de Tim Burton, Batman Forever en 95 et Batman et Robin, ces deux derniers films étant réalisés par Joel Schumacher. Ce succès-là, qui paraît du coup une sorte d'anomalie véritablement, il est peut-être moins dû à la qualité intrinsèque du film plutôt qu'à un autre élément qui est quelque chose qui anime cette année 89, qui est la Batmania. C'est quoi cette Batmania, Fabien ?
La Batmania, on peut dire qu'elle est incarnée par le logo Batman. C'est-à-dire qu'elle est vraiment incarnée par l'affiche du film que je mentionnais tout à l'heure, qui est vraiment cette façon de vendre le logo Batman et toutes ses déclinaisons possibles et imaginables. C'est-à-dire que lorsque Warner a lancé le film, ils ont entrevu plusieurs pistes marketing. On peut voir différentes affiches, teasers, où on voit Michael Keaton en Batman, Jack Nicholson en Joker. Donc, ils ont testé plein de choses. Et finalement, ils se sont dit, si finalement, on lançait le film juste avec cette affiche, où on voit juste le logo Batman. Est-ce que le logo a une force d'évocation suffisamment puissante pour vendre le film à lui seul ? Et en fait, il s'est avéré que c'était le cas. On peut voir des images, par exemple, d'un panneau gigantesque affiché sur Times Square. On voit juste le logo Batman avec écrit « Now ». C'est la première fois où on avait un logo presque en 3D, mais en relief, et qui demandait à la personne qui regarde ce logo d'avoir un temps d'observation, de se dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» Il fallait que la forme de la chauve-souris se dessine face à l'observateur ou à l'observatrice. Et à partir du moment où on captait l'attention de la personne, en gros, on va dire que tout le jeu commercial était joué et du coup ils ont réussi leur pari. Et c'est vrai que le film a été lancé à coup de grand renfort marketing, et on va dire que le personnage de Batman et le personnage du Joker ont été déclinés à toutes les sauces possibles et imaginables, que ça soit des figurines,
la musique,
des jouets,
de Prince,
des tortillas Batman. Moi, je me souviens, en boulangerie, il y avait des cartes Tops Batman qui étaient vendues avec des chewing-gums. Donc, tout qui était marketable de par les personnages et de par ce logo Batman, ils l'ont exploité. Et c'est vrai que, même quand on voit le film, la Batmobile, on peut en faire un jouet. Le Batwing, l'avion, c'est un jouet.
C'est-à-dire qu'en fait, la conception même du film, c'est-à-dire que même dès la pré-production, même, tu l'as dit, le film Batman a mis 10 ans à se faire. Ouais. Peut-être qu'on peut revenir sur la gestation du projet. Du coup, Batman a mis longtemps à se faire. Est-ce que cette idée de marketing était là dès l'origine ?
En fait, il faut vraiment rembobiner à la fin des années 70, puisque la franchise Batman était, en tout cas la franchise Batman en prise de vue réelle était morte. C'est-à-dire, Adam West et Burt Ward sont revenus à l'occasion d'un téléfilm qui s'appelait La Légende des Super-Héros, Legend of the Super-Heroes. Ils reprenaient leur rôle de Batman. Et à un moment donné, il était question que CBS fasse un film qui s'intitule Batman in Outer Space, donc Batman dans l'espace. Donc, pour dire qu'à ce point, la franchise était vraiment enterrée. Et on doit tout à un homme qui s'appelle Michael E. Uslan, un étudiant qui a fini par devenir avocat, qui était un passionné de comics. Et lorsqu'il a vu la série Batman en 66, il a eu des sentiments partagés, parce qu'il s'est dit, à la fois je suis content que Batman soit, on va dire,
populaire
et tout, mais il regrettait que ce soit une version comique de Batman. Donc tout le monde se moquait du personnage qu'il aimait. Donc à la fin dans le milieu des années 70, Michael Uslan, qui poursuivait ses études, arrive à faire monter un cours qui consiste à enseigner les comics aux étudiants. Donc c'est un cours qu'il a lui-même porté. Il avait convaincu le doyen de sa fac de financer ce cours de pop culture dédié aux comics, et c'est devenu une figure très influente du genre très rapidement, puisque Stan Lee a salué son initiative. Il a travaillé chez DC Comics à un moment donné, et en 1979 il s'associe avec un exécutif d'Hollywood qui s'appelle Benjamin Melnicker, et ils montent une structure ensemble qui va consister à produire un film sérieux dédié à Batman. Ce sera vraiment la première adaptation sérieuse de Batman. Alors, il faut savoir que DC Comics n'a appartenait pas encore à Warner à cette époque-là. Donc ils vont prendre la franchise à bras-le-corps.
Et là, on est à la fin des années 70, début 80.
70-80, Uslan va faire sa version du scénario qui s'appelle Return of the Batman. Puis ensuite, ils vont faire venir Tom Mankiewicz, le scénariste de Superman de Richard Donner, pour faire un script qui va évoluer. Alors bon, on va évoquer Ivan Reitman à la réalisation, puis ensuite Joe Dante qui va rapidement passer sur le projet.
10 ans de développement. Qu'est-ce qui décoince cet enfer du développement dans lequel le film est plongé?
Ce qui décoince, c'est le fait que le film est pris en charge par deux producteurs fous furieux, donc John Peters et Peter Gruber. De fil en aiguille, Burton est associé au projet, mais il n'est pas embauché de suite. C'est-à-dire qu'à l'époque, il travaille sur Beetlejuice. Et la condition sine qua non, c'est que si Beetlejuice marche, il pourra faire Batman.
Ce qui était le cas, du coup.
Ce qui était le cas, mais surtout, Burton a pu s'appuyer sur l'arrivée d'un nouveau scénariste, spécialiste de comics, qui est Sam Hamm, et qui va écrire en 1986 la première vraie version du scénario tel qu'on connaît aujourd'hui. Donc du coup, le script de Sam Hamm allié à la vision de Tim Burton font que le projet va complètement se débloquer. Et
donc cette espèce d'inspiration un peu impressionnisme allemand, très architectural, très gothique, vient surtout de Tim Burton bien sûr et de Sam Hamm comme tu le dis.
Il y a des indications déjà dans le script où Sam Hamm explique que Gotham City est une ville qui devait donner l'impression de surgir
un peu à la métropole
de l'enfer. Exactement, une sorte de version alternative de New York qui aurait vécu un plan de rénovation urbaine qui serait devenu complètement fou et qui aurait complètement échoué.
Et par-dessus ça, Warner va appliquer quelque chose qui est assez inédit à l'époque, qui est que dès la conception, dès les premiers temps du projet, ils vont concevoir le film, son scénario, ses personnages, ses accessoires, ses outils et tout ça, dans un modèle toy-oriented, c'est-à-dire orienté vers une marchandisation de tout ce qu'on voit à l'image. L'idée de Warner, c'est qu'il faut que tout ce qu'on voit à l'image, les voitures, les objets, les accessoires, ce que portent les personnages, tout ça, on puisse en faire des produits dérivés. Et ça arrive très très tôt. Et c'est dû du coup au fait de ces deux producteurs fous furieux dont tu parles. Cette idée de génie.
Effectivement, comme tu l'as dit, Warner va devoir optimiser, on va dire, tout le potentiel marketing du film. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, tout dans la conception du film devait amener à une espèce d'optimisation marketing, quoi. Tout devait être transformé. Ouais. Il fallait, comme je disais au début, que la Batmobile soit potentiellement un jouet, que le Batwing aussi, que le costume de Batman puisse être décliné en figurine. Donc oui, le film a été pensé aussi pour être une gigantesque machine marketing, chose que Tim Burton, lui, n'a pas pu prendre en compte puisqu'il tournait le film loin de tout ça en Angleterre. Donc il devait vraiment se concentrer sur son film et sur ses deux producteurs, donc Goober et Peters, pardon, qui étaient vraiment sur son dos, surtout John Peters. Si vous voulez savoir qui est John Peters, revoyez Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, puisque le rôle que joue Bradley Cooper, c'est John Peters. C'est un ancien coiffeur qui bossait à Hollywood et qui était notamment le coiffeur et le compagnon de Barbara Streisand, et qui est un type complètement allumé, qui aime bien se battre, toutes les scènes de combat dans Batman ont été réalisées sous sa pression.
Pour continuer cette question de merchandising, est-ce que quand Batman fait ça, il y a déjà eu d'autres films qui ont eu un merchandising extrêmement fort. Star Wars, en 77, a un merchandising un peu en second temps. C'est-à-dire que quand sort Star Wars, on ne s'attend pas à un succès comme ça. Et le merchandising arrive dans un second temps, comme une seconde vague comme ça. Dans les années 80, on a SOS Phantom qui essaye de réitérer un peu la magie du merchandising qui fonctionne. Ça fonctionne, mais ce n'est pas le raz-de-marée que Batman va imposer comme ça à la société, à la culture, cette année 89. Pourquoi Batman fonctionne là où d'autres films n'ont pas eu cet impact peut-être sur la société une année donnée?
Mais je pense que Warner a fait un très beau coup à l'époque parce qu'ils avaient justement précalculé tout l'aspect commercial du film, c'est-à-dire que lorsque le film sort, tout était déjà presque vendu à l'avance, en fait. Je veux dire, même les posters de Batman étaient volés dans les abribus. C'était vraiment de la Panzer promo, c'est-à-dire c'était vraiment agressif et à tous les niveaux c'était un phénomène culturel auquel les gens voulaient participer. Et en fait, surtout, il y avait rien d'autre. Il y avait rien d'autre. La trilogie Star Wars se terminait depuis longtemps. Indiana Jones venait de sortir, le troisième, dont on va parler tout à l'heure, mais c'était pas pareil. Je veux dire, il n'y avait pas forcément le même...
Il y avait un peu le champ libre.
Et voilà.
Surtout, il a préparé ce champ libre-là parce que du coup, la marketing, la com a commencé très tôt.
Tout à fait. Et puis surtout, c'était les 50 ans de Batman. Et puis surtout, le personnage venait d'être réactivé aussi avec les dernières BD de Frank Miller, avec The Dark Knight Returns, avec Batman Year One. Et surtout, il s'est passé un truc génial, c'est que le film, d'une certaine manière, a été prévendu auprès du public par sa bande-annonce, qui était diffusé dans des salles un peu partout aux États-Unis. Ouais. C'est-à-dire que les gens payaient leur billet, il n'y avait pas Internet à l'époque, hein. Ouais. Les gens payaient leur billet pour aller voir un film dont ils se contrefoutaient, juste pour voir la bande-annonce de Batman quelques mois plus tôt et repartir de la salle. Donc ça fait qu'il y a plein de films qui se sont fait un super box-office juste parce qu'il y avait la bande-annonce de Batman.
Qui était diffusée
Batman.
Avant, quoi. Exactement. Un peu comme la bande-annonce de La Menace Fantôme qui est diffusée avant Rencontre avec Joe Black en 99. Mais... Et du coup, les gens vont voir la bande-annonce et se barrent au bout de 5 minutes parce que c'est terminé, quoi.
Et c'est ça, mais ça a généré un tel phénomène que la bande-annonce tournait sur des VHS en bootleg à cette époque-là.
Ouais, mais tu vois, en discutant comme ça avec toi, j'ai l'impression que ce qui marche effectivement avec Batman, c'est déjà qu'on l'a vu dans la com. Si cher auditeur, vous revoyez la com, on en a parlé au début, le poster de Batman, c'est juste un logo, il n'y a pas Michael Keaton, il n'y a pas Jack Nicholson. Là, la musique qu'on a entendue, c'est le générique du début du film. Si vous vous souvenez bien, c'est juste cette musique de Danny Elfman iconique avec des images d'une caméra qui se faufile comme ça dans des entrelacs de couloirs et qui finalement se révèle comme étant le logo de Batman au final. Mais du coup, c'est un film qui fonctionne, et c'est une campagne marketing qui fonctionne par l'évocation, par la fascination, par l'évocation, et aller chercher son public et son succès plus par l'idée du film que le film lui-même. Ce qui est assez comme ça étonnant, et que je mettrais moi au crédit, je ne sais pas ce que tu en penses Fabien, mais qu'en fait, Batman est aussi et avant tout certes un succès marketing et de com, mais aussi un succès de DA. C'est un succès de direction artistique parce que les mecs ils sont arrivés avec une propale complètement folle et ils ont dit mais en fait Batman on va réimposer une direction et un univers d'un personnage célèbre et on va lui redéfinir. Et c'est vrai que cet univers là gothique comme ça, impressionnisme, etc. dont on parle, mine de rien, ça lui colle à la peau à Batman encore aujourd'hui. Quand on voit le Matt Reeves, même s'il y a une proposition très différente, il est encore comme ça dans cette dialectique sombre, torturée, qui a 30 ans quand même.
C'est-à-dire que c'est un film, là où, alors on enregistre l'émission, c'est un film qui a 33 ans, et c'est le film qui a littéralement redéfini le langage du film de super-héros au cinéma. C'est-à-dire qu'un film de super-héros, ça doit être aussi un univers visuel. Et c'est vrai que cette direction artistique chapeauté par Anton First a été une proposition totalement folle à l'époque. Autant le film de Burton n'est pas une grande proposition de mise en scène en termes de caméra, mais en termes d'univers graphique, on est sur un ailleurs absolu. C'est-à-dire que le premier plan, on voit Gotham City, qui est une espèce d'enfer sur Terre, sous la forme d'une espèce de monticule d'immeuble.
Ah, c'est phénoménal.
Avec en son centre
cette amalgame de tours et de
cathédrale au centre. Et là, d'emblée, on est absorbé dans un univers qui est entre Metropolis et Blade Runner d'une certaine manière. C'est comme une espèce de New York des années 40, mais qui n'aurait pas survécu finalement au New York, on va dire, à la crise de la fin des années 70, début des années 80. Et on est dans un mélange entre un univers des années 40 avec des personnages qui sont habillés comme dans les films noirs. Les immeubles, c'est des mélanges entre des maquettes, des vrais décors construits
à Pinewood
et des superbes made paintings. En termes de design, ils se sont inspirés de Albert Speer, célèbre architecte du Troisième Reich, et surtout de Shin Takamatsu, qui est un designer et architecte qui était vraiment dans quelque chose de très futuriste, qui travaillait sur des plaques métalliques ou alors des formes très arrondies, chose qu'on voit dans le décor du musée, qui est directement inspiré de Takamatsu. Et l'idée, c'est aussi de montrer toujours cette idée de plateforme, de boulon. En fait, quand vous voyez Gotham City, ce sont des immeubles sur lesquels on a par-dessus d'autres immeubles ou alors des échafaudages.
T'as un côté chantier, usine en tout cas.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est abordé dans le film, hein. La ville doit célébrer son bicentenaire et elle est au bord de la banqueroute. Même la Batcave, on peut le voir, c'est un mélange de grottes mais aussi d'armatures métalliques qui soutiennent justement les ordinateurs, ce genre de choses. Et Batman lui-même, tout son costume, sa Batmobile, c'est une direction artistique en soi, c'est-à-dire que tout est noir, tout est luisant et tout doit être symétrique au plus possible en fait. Et c'est là où ça, il y a un choc visuel quand on voit
Batman. Objet, voilà. C'est iconique dans le sens icône, dans le sens image prégnante qui saisit l'œil, quoi, véritablement.
Et il y a une espèce de côté un peu subversif dans le film par rapport au logo, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps bombarder le public avec ce logo Batman sous toutes ses formes, que ça soit au générique, comme tu l'as mentionné au début.
C'est quand même le cœur du générique du film.
C'est le cœur du générique du film. La plaque que Batman a sur son torse. On voit même le logo de Batman sur les enjoliveurs de la Batmobile. On a le Batplane qui épouse la forme du logo de Batman. Il y a ce plan génial où le logo se fixe dans la lune. Et puis on a le film se termine par le Bat-signal. Voilà, donc c'est une manière générale de bombarder le spectateur avec cette image de chauve-souris sur fond jaune. Enfin,
c'est fabuleux, effectivement. Bon, là, on est donc, tu l'as dit, 33 ans plus tard, d'autres films de super-héros sont arrivés. Tu l'as dit, Batman a changé quand même la vision qu'on avait du film de super-héros. On est 33 ans plus tard. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du premier Batman de Tim Burton ? Parce que tout le monde parle du Batman le défi, tout le monde parle maintenant des Batman de Nolan et des autres films de super-héros qui ont suivi, qui ont également changé plein de choses. On peut parler du MCU, mais 33 ans plus tard, j'ai l'impression qu'on parle plus du Batman le défi, par exemple, que du premier Batman. Et en revoyant ce premier Batman-là, moi j'avoue que c'est un film qui a quand même des défauts. C'est un film qui a un gros ventre mou, qui est assez long par des aspects, qui est assez pompeux à d'autres moments. Jack Nicholson est évidemment formidable, mais c'est aussi un show autour de lui, donc le film du coup s'en trouve un petit peu bancal par certains aspects. On peut se poser la question de est-ce que Batman c'est juste une belle image, un beau flacon, mais pas beaucoup d'ivresse à l'intérieur.
Alors c'est un film qui est assez unique en son genre, parce que déjà c'est le seul film de Batman qui se rapproche presque d'un film musical. Pourquoi ? Parce qu'on a des séquences entières où le Joker danse sur de la musique de Prince, et c'est quelque chose qu'on ne reverra plus jamais. C'est-à-dire des séquences où la narration s'arrête presque pour tourner autour du Joker qui danse sur de la musique pop. Donc on a comme ça des espèces de parenthèses musicales.
Jack Nicholson qui danse sur Prince, je prends.
C'est un film qui déjà questionnait la notion d'adaptation et l'exigence que le public a par rapport à la notion d'adaptation. C'est-à-dire que le scénario de Sam Hamm a été modifié par d'autres scénaristes, Warren Scarren qui avait travaillé sur Top Gun, et Charles McKeown, le scénariste de Terry Gilliam. C'est-à-dire que le fait que le Joker tue les parents de Bruce Wayne, c'est des choses qui ont été amenées pendant le tournage, parce qu'il fallait que la production s'accélère, il fallait gagner du temps. Et ça, Sam Hamm, parce que j'ai eu le plaisir de l'interviewer, le scénariste, il m'a dit qu'il était furieux quand il avait vu le film, parce que pour lui, c'était une espèce de
sacrilège.
De sacrilège. On cassait la Bible de Batman, ce qui fait que dans la dernière partie du film, Batman devient plus une sorte de punisher masqué que vraiment Batman. Donc c'est aujourd'hui, ce serait plus possible, parce qu'il y a toujours cette notion maintenant aujourd'hui de Batman, doit-il tuer, doit-il se venger, ce genre de choses. Il y a des moments dans le film que je trouve saisissants. Moi, je sais que gamin, j'étais marqué par cette scène où Batman et Vicky font le chemin dans la forêt, dans la Batmobile, qui est une séquence où il n'y a quasiment pas de dialogue. Une séquence qui est vraiment portée par le montage, par la vélocité de la Batmobile, par la musique de Danny Elfman.
La fascination de Vicky qui est là. On est Vicky, on est là, genre qu'est-ce qui se passe ?
Qui essaie de percer le mystère, en fait. Et aujourd'hui, c'est un film qui m'intéresse plus que Batman le défi pour savoir comment la production s'est passée, en fait, à ce niveau-là. C'est un film, Batman le défi, tout est nickel, c'est un chef-d'œuvre absolu, mais ce film-là, je vois toutes les scories, je vois les problèmes, mais c'est un film qui m'intéresse plus pour savoir comment il a été fait. Effectivement, c'est un film qui fait très studio. On sent que des fois, si Burton, mais comme Aliens de Cameron, hein, on sent que des fois, si la caméra s'éloigne un peu trop, on voit les limites du décor de Pinewood. Hein, donc ça, il faut pas se leurrer. C'est aussi le désavantage du format 1.85. Hein, je rappelle, il y a très peu de films qui étaient tournés en scope à cette époque-là. Mais on découvre plein de choses. Par exemple, là maintenant, sur Instagram, on a un monsieur qui s'appelle Carl Newman, qui était le monsieur qui portait le costume de Batman dans les plans larges. C'est lui qu'on voit chaque fois déployer la cape, c'est lui qu'on voit descendre avec la cape déployée, c'est lui qui fait le fameux bat turn et tout ça. Et ce monsieur, il est sur Instagram et il livre plein de choses sur la production.
Ah, formidable.
Je trouve ça passionnant. Génial. C'est un mec qui a l'air en plus adorable. Mais voilà, le film a pour lui ces espèces de séquences de silence, cette scène de forêt dans la Batmobile qui, moi, en plus, encore une fois, je ramène un souvenir avec ma maman, c'est que on habitait entre Hyères et dans le Var. Dans le Var, il y avait donc Hyères et un village où je vivais qui s'appelait Pierrefeu. Avec ma mère, on faisait comme ça on rentrait à Pierrefeu en voiture la nuit avec la forêt qui défilait. Donc il y avait
et toi t'étais un peu Vicky Vale avec ta maman.
C'était un peu ça, mais tu vois il y avait ce côté, je comprends ce trajet, je comprends les moments de solitude dans la nuit, et pour moi c'était quelque chose d'extrêmement tangible. Mais je comprends aussi que certaines personnes aient été déçues à l'époque. Je veux dire, quand vous avez des cinéastes qui arrivent avec des propositions de mise en scène folle comme Joe Dante, comme Sam Raimi, comme James Cameron ou même Spielberg, c'est un film qui finalement a été assez plan-plan Batman dans sa mise en scène pure. Mais je sais pas, moi je me dis toujours qu'il y a encore plein de choses à explorer dans cette Gotham City-là, chose qu'on verra dans les jeux vidéo notamment, notamment la version de Nintendo qui a vraiment, je trouve, étendu l'univers. Mais ce qui me plaît quand je vois ce film aujourd'hui, c'est que je me dis que c'est un vrai film Warner dans le sens classique du terme. C'est-à-dire pour moi, c'est un film, c'est une sorte de remake des films de Michael Curtis des années 30 comme Masque de cire qui raconte l'histoire d'une journaliste qui enquête sur un tueur défiguré.
Un film de détective.
Voilà.
Un polar.
Et en fait, j'ai demandé à Sam Hamm, est-ce que ma comparaison est totalement hors sujet. Il m'a dit, non, en fait, quand je l'écris Batman, je l'ai écrit sous influence de tous les films noirs Warner des années 30-40. Et il me disait, c'est marrant, vous me parliez de ce film, de Mystery of the Wax Museum, parce que Burton voulait faire un remake de House of Wax, donc le remake du film de Michael Curtis avec Vincent Price. Il voulait faire un remake de ce film-là, Burton. Donc je me suis dit, en fait, Batman, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un vrai film dans la tradition Warner noir, en fait. Et c'est pour ça que ça m'intéresse, mais
tout en étant un film de super-héros et tout en ayant lancé quand même, mine de rien, remis, on va dire, les voyants au vert pour que les studios se disent « Ah, il y a quelque chose à faire autour de ce genre qui, à l'époque, encore n'en est pas un véritablement. Mais peut-être qu'on doit aujourd'hui la suprématie de ce genre dans les salles à ce film de 89, certes imparfait, mais qui a laissé une empreinte indélébile dans la tête de tous les spectateurs, y compris d'un petit Fabien à 4 ans devant le cinéma hier.
L'Éden, ouais.
L'Éden. Tu l'as dit, Batman a laissé bien plus qu'un film.
Il a vécu dans le temps aussi. Hein.
Il a vécu, il est mémorable à plein de niveaux. Il faudrait bien sûr des heures pour continuer de parler de Batman, mais en une demi-heure, je pense qu'on a déjà parlé de pas mal de choses. Voilà qui conclut parfaitement ce premier thème autour de Batman de Tim Burton, le grand film de l'année 1989. On est toujours en compagnie de Fabien Moreau et on s'en va sans plus tarder vers le second thème de notre émission. Thème formidable, cette musique formidable, c'est le thème principal du film The Killer de John Woo, musique composée par Lowell Low. Pourquoi on met cette musique de The Killer de John Woo? Tout simplement parce que en 89, dans le cinéma hongkongais et puis même dans le cinéma mondial, deux films se font face dans les salles hongkongaises. Deux films issus d'une dispute entre deux frères brouillés, John Woo et Tsui Hark. Ces deux films, c'est The Killer de John Woo et Le Syndicat du Crime 3 de Tsui Hark. Tout simplement, pourquoi The Killer et Le Syndicat du Crime 3, comme ça, ce sont deux films qui se font face à face comme ça en 89, et pourquoi ce sont deux films qui sont bien plus que simplement deux films hongkongais?
On va dire que c'est la rencontre et le clash de deux très grands cinéastes hongkongais. D'un côté, on a John Woo, hein, qui lui a commencé dans les années 70 comme assistant réalisateur, notamment pour Chang Che, au studio de la Shaw Brothers. Chang Che qui était le réalisateur de ses films d'arts martiaux, de ses wuxiapian, donc ses films de chevalerie et ses films de kung-fu, où on met en avant les grandes amitiés masculines, où on se bat déjà pour son frère, déjà on meurt dans le sang et les larmes, les vêtements immaculés blancs se tachent de sang pour le sacrifice et l'amitié. Et donc John Woo Donc est assistant pour Po Chang-che, hein, ça a été son mentor, et il évolue à l'époque dans une industrie où il doit réaliser des films d'arts martiaux, des films de sabre aussi. Fin...
Alors pour rappeler John Woo, pour mettre du contexte pour les auditeurs, hein, John Woo, ça vous dit forcément quelque chose, c'est un réalisateur assez connu, notamment il a fait beaucoup de films, tu l'as dit, à Hong Kong, mais beaucoup de films également dans l'Occident. C'est le réalisateur de À toute épreuve, du Syndicat du crime, d'Une balle dans la tête, de Volte-face, de Mission Impossible 2, de plein de films comme ça qui sont assez connus. Ouais.
Et de l'autre côté, on a tué Arc, donc qui lui est ce qu'on appelle un Hoa, c'est-à-dire que c'est issu d'une famille chinoise qui a vécu au Vietnam. Ensuite, il revient à Hong Kong, il passe par la case télévision et il commence sa carrière de cinéaste en 79 avec Butterfly Murders, qui est une relecture des Wuxiapian d'enquête. Ensuite, il va réaliser des films un peu plus énervés comme Histoire de cannibal ou L'enfer des armes. Ça devient un peu le nouvel Golden Boy de Hong Kong, Choi Arc, et il fonde en 84 une société de production qui s'appelle la Film Workshop, qui va consister à produire des films commerciaux pour le cinéma de Hong Kong. Donc progressivement, il va abandonner sa carrière de réalisateur pour devenir producteur à part entière. Donc il va lancer des franchises comme Histoire de fantômes chinois notamment. Et donc en 86, il produit Le Syndicat du crime, qui est réalisé par John Woo.
Il va retourner dans un genre qui est très différent de ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire qu'il va retourner dans un film, dans le genre du film de gangster, du film policier véritablement.
Ouais, c'est ce qu'on va appeler le heroic bloodshed, c'est-à-dire voilà. Ce sont des films effectivement qui vont tourner autour de la pègre ou de policiers ou
avec des fusillades,
et surtout c'est
des colombes,
surtout des personnages comme ça qui vont reprendre les valeurs de Chang-Chi, c'est-à-dire c'est des personnages de frères d'armes qui vont se défendre,
un peu christique d'ailleurs,
qui vont se sacrifier l'un pour l'autre.
Donc là on est en 86. Le Syndicat du crime est donc un film produit par Tsui Hark, réalisé par John Woo. C'est la première fois que ces deux futurs géants du cinéma hongkongais se rencontrent et travaillent ensemble.
Tout à fait. Et donc ça, c'est un immense succès. C'est un immense succès, c'est un immense carton à Hong Kong, au point que John Woo lui veut passer à autre chose, mais Choi Arc lui dit non, on va faire le Syndicat du crime 2. Et John Woo lui ne veut pas le faire, et ça va être une source de tension entre les deux. John Woo va en tirer quand même un film d'action assez formidable. Autant le premier, c'est plutôt une sorte de drame, avec en effet quelques scènes d'action, mais c'est plutôt un drame sur les personnages, sur la psychologie, sur, encore une fois, ce rapport de fraternité, de trahison, de déception. Mais le deuxième, on va aller dans du film d'action pur, avec certains passages un peu gênants, avec le personnage de l'acteur Jin Chek, qui est un petit peu gênant. Toujours est-il que le film fonctionne. Mais John Woo a un projet qui lui est très personnel, qui va être donc The Killer, qui au début raconte, ça devait être l'histoire de deux flics qui traquaient un psychopathe, mais le projet va évoluer et donc ça va devenir une sorte de mélange entre Le Samouraï de Jean-Pierre Melville et un film japonais de Teru Ishii qui s'appelle The Outlaw. Donc ça racontait l'histoire d'un tueur à gages qui tombe amoureux d'une prostituée tuberculeuse en fait à Macao.
Du coup, The Killer, ça raconte l'histoire d'un assassin un peu désabusé qui va accepter un dernier job dans l'espoir d'utiliser du coup l'argent de la mission pour redonner la vue à une chanteuse qu'il a accidentellement rendue aveugle. Et du coup c'est l'histoire du film, et là-dedans se glisse une rivalité avec un policier qui veut évidemment l'arrêter. C'est l'histoire de The Killer que John Woo fait.
Ouais, en fait, Arc est toujours producteur sur The Killer. Hein. Okay, c'est toujours produit par Film Workshop. Sauf que John Woo va recevoir une aide financière supplémentaire de Golden Princess, qui est la société qui chapeaute Chu Yun-fat. Donc Chu Yun-fat va jouer un rôle important dans la production de film. Et aussi de la société Magnum Film, qui est la société de Danny Lee. Danny Lee, qui est l'acteur qui joue donc le policier qui va entrer en collision avec Chu Yun-fat. Mais il faut savoir que, alors j'ai pas le nom du titre original, le titre chinois du film en tête, mais le titre original met en avant les deux personnages. Donc c'est pas une histoire sur le tueur, c'est vraiment une histoire du tueur et du policier qui vont se rencontrer, et avec, on va dire, le point central de leur rencontre, c'est cette jeune chanteuse aveugle en fait. Voilà, ce sont deux personnages que tout oppose, mais qui vont nouer cette relation de rivalité au début, d'affrontement, mais qui va se transformer en relation d'amitié pure et dure, comme dans les films de Chang-Chi.
Et du coup, de Soyark, pour répondre un peu à John Woo qui fait ce film-là, qui, tu l'as dit, il est produit par Soyark, il le produit, mais c'est un peu le film aussi de l'émancipation pour John Woo. Lui, il va faire la même année, à quelques mois d'intervalle, je crois que le film sort 4 mois après ou 5 mois après, Le Syndicat du Crime 3, qui est un préquel, qui est un film qui se passe avant les deux premiers, encore avec Chow Yun-Fat, et du coup, on se retrouve avec la même année, sur le même territoire, Hong Kong, deux films... par deux réalisateurs qui se disent un peu en voir, hein, j'ai l'impression quand même.
Ouais, surtout que The Killer ne va pas vraiment aussi bien fonctionner à Hong Kong.
Ça va être un succès à l'Occident, puisqu'il va faire pas mal de festivals Cannes, aux États-Unis, à Cannes, etc. Donc, les Occidentaux vont adorer The Killer et d'ailleurs, ça va propulser John Woo dans une carrière internationale où il tout fera Chasse à l'homme, il fera Volte-face et tous les films que nous, Occidentaux, on connaît. Mais du coup, oui, il aura, comme tu dis, il n'aura pas beaucoup marché ou moins bien marché à Hong Kong.
Bon, bien marché parce que notamment les Asiatiques n'ont pas forcément compris la philosophie du film. Or, Le Syndicat du Crime, c'était beaucoup plus clair. The Killer, pour eux, c'était. Un film qui avait une esthétique différente, qui avait des enjeux, des sentiments différents, donc il a été moins compris. Alors qu'effectivement, en Occident, donc nous, on l'a mieux reçu, surtout en plus avec cette profusion de séquences de fusillades qui ont été des chocs pour des gens comme Christophe Gans, Quentin Tarantino. Mais effectivement, le Syndicat du Crime 3 est un film qui va permettre à Chow Yun-Fat de revenir à la réalisation, chose qu'il n'avait pas fait depuis 1986, finalement, en contrôlant cette franchise dont il était le producteur. Et le but, ça va vraiment être de faire un film assez personnel qui va avoir très peu de liens avec les deux précédents, si ce n'est la présence de Chow Yun-Fat qui reprend le rôle de Mark Chung, le personnage qu'il a incarné dans le premier film.
Donc ça va créer une brouille entre les deux hommes, et pourtant ces deux hommes-là, Tsui Hark et John Woo, sont les têtes d'affiche, les fers de lance d'une génération entière de cinéastes hongkongais et d'un cinéma hongkongais qui va quand même fleurir dans les années 80. D'où elle vient cette génération hongkongaise de cinéastes et pourquoi, comment est-ce qu'on expliquerait son impact comme ça, son succès dans le monde entier?
Bon, déjà, on a une génération de cinéastes qui ont été formés de manière classique à la Shaw Brothers, comme John Woo, comme Liu Chaliang, hein, le grand maître des...
Donc des bons des techniciens martiaux, déjà voilà. De base, à la bonne école.
Mais ensuite, il y a toute une génération de cinéastes, donc ce qu'on appelle la nouvelle vague hongkongaise, qui vont arriver à la toute fin des années 70. Donc on a Choi Hark, on a Han Roy, on a Alex Cheng, Fru Chan, donc des gens qui vont vraiment revitaliser le cinéma hongkongais, surtout en amenant des thématiques beaucoup plus contemporaines, mais aussi qui vont se saisir de genres, on va dire, beaucoup plus anciens comme le Wuxiapian, mais qui vont complètement le redynamiser. Ils vont ramener aussi des histoires populaires qu'ils vont vraiment renouveler de par le choix des acteurs qui vont être beaucoup plus jeunes, de par des choix de mise en scène beaucoup plus en phase avec l'époque. Et puis surtout, c'est un cinéma, et puis surtout, on se rapproche de la rétrocession de Hong Kong, hein, qui aura lieu en 1997. Donc il y a cette volonté de faire du cinéma très frontal, très électrique.
Sans concession.
Et de vivre à fond ces expériences de tournage avant la fin d'un monde.
Parce qu'on ne sait pas ce qui arrive dans 10 ans.
Exactement.
Ah, c'est marrant, ça. C'est marrant, cette espèce de comme cette pulsion de vie avant que peut-être le rideau se ferme. C'est tristement... contemporain, puisqu'en 2022, les dernières restrictions chinoises sur le cinéma hongkongais ont sans doute causé la mort d'un certain cinéma dont on parle là. Tu dirais que cette dispute entre deux films, deux réalisateurs, est-ce que c'est une dispute uniquement professionnelle ou il y a quelque chose de plus intime en dessous de ça?
Non, je pense que c'est avant tout une question de philosophie de cinéma. Je pense que de toute façon, on peut difficilement faire plus opposé que Chow Yun-Fat et John Woo fondamentalement.
En quoi il est différent? Quelles sont les différences entre le cinéma de Chow Yun-Fat et John Woo?
Je pense que John Woo est un cinéaste qui est beaucoup plus dans le sentiment, dans l'explosion comme ça des émotions, alors que Chow Yun-Fat est quand même quelqu'un qui manipule aussi très très bien l'émotion, mais qui est dans une forme je pense qu'il est plus intellectuel, Chow Yun-Fat. Hein, et comme je disais, John Woo, c'est les valeurs inter-individuelles, mais Chow Yun-Fat, il faut que ce soit la cause. Il faut se battre pour quelque chose. Le Syndicat du Crime 3, ce sont des personnages qui vont se battre pour quitter ce Vietnam qui est sur le point d'être libéré, mais qui, pour se battre contre la corruption, il faut se battre pour sa liberté.
Quelque chose de plus politique, véritablement.
C'est un cinéma largement politique. C'est quelque chose qu'on voit dès les débuts. Quand vous voyez l'enfer des armes, quand vous voyez même un film comme The Blade, ce sont des personnages qui ont vraiment... La saga des Il était une fois en Chine, ce sont des personnages qui vont se battre contre les colons anglais, qui vont se battre contre une forme d'oppression.
Oui, parce que du coup, Soyark, pour remettre un peu c'est le réalisateur de Il était une fois en Chine, de The Master, de Time and Tide, donc c'est un réalisateur qui a fait des films fameux, et comme tu l'as dit, c'est cette brouille-là avec John Woo, finalement, l'a obligé à reprendre, à se remettre derrière la caméra et repartir dans une carrière de réalisateur, donc c'est une brouille qui a finalement
apporté
ses fruits.
C'est cette période-là où il va amorcer des nombreux chefs-d'œuvre. Enfin, moi, ça, c'est sa période qui m'intéresse le plus, le début des années 90, où on a Il était une fois en Chine, on a mon film préféré de lui, qui est Green Snake, The Lovers, qui va consister vraiment en plus à faire beaucoup de remakes de films qui existent déjà, beaucoup de remakes, mais qui va les reprendre à sa sauce et avec une perception politique très personnelle et surtout avec une imagerie complètement renouvelée. Et surtout, autant de John Woo, il a atteint, je pense, son point d'orgue avec À toute épreuve en 92, mais Soyark, lui, il va tout le temps être dans une démarche d'expérimentation constante, ce qui peut le rapprocher d'un George Miller ou d'un Michael Mann, qui vont tout le temps réfléchir sur le renouvellement des formes, comment est-ce qu'on peut rendre l'action plus immédiate, plus viscérale, comment est-ce qu'on peut rendre l'image plus pure, ou au contraire, comment est-ce qu'on peut la rendre plus sale pour accentuer l'effet de ici et maintenant. Mais par contre, c'est vrai que le Syndicat du Crime 3, il est encore dans cette vision de mise en scène de l'époque, c'est-à-dire on est souvent dans quelque chose d'un petit peu plus fantastique, avec souvent des scènes de nuit qui se passent dans des décors un peu bleutés, tu vois, avec des apparitions presque spectrales. Il y a ce souci d'iconisation de chaque instant où les personnages sont toujours filmés comme ça en contre-plongée. Puis surtout qu'il y a une expérimentation sur l'action qui est différente. John Woo, il aime bien les fusillades. D'accord. Mais quand Soyark va te faire une scène avec un tank, on va montrer un type sur une moto auquel il a accroché une caisse avec de la dynamite, et le but, c'est de faire tourner la moto pour que la caisse de dynamite aille sous le tank pour faire exploser le tank. Ouais. Donc c'est vraiment une façon d'utiliser les objets, ce qu'ils incarnent pour les personnages, pour créer des moments d'action. Les objets aussi incarnent l'état d'esprit des personnages. D'accord. À un moment donné, quand on a l'oncle de Chuen Phat qui passe à la douane et que la devanture de son magasin est brisée par des douaniers, ça provoque chez lui une attaque cardiaque.
Rassure-nous, Fabien, pour conclure ce thème sur John Woo, Soyark et le cinéma hongkongais, est-ce que les deux hommes se sont réconciliés depuis ?
Ils se sont réconciliés bien après, donc il n'y a pas de problème. Mais je voulais, avant de conclure ce thème, parler d'une personne qui est très importante dans le Syndicat du Crime 3, dont on parle peu, qui est Anita Moy, qui joue le rôle de Kit dans le Syndicat du Crime 3, qui est la personne qui va, pour le coup, forger Chuen Phat et Tony Leung Kar Fai, qui est un personnage de femme d'influence, de guerrière, et qui a cette scène où on se rend compte qu'elle sait manipuler les armes au début du film, et on voit elle dessoude tout un peloton de vieilles cons, de militaires corrompus avec une mitraillette, mais à une seule main. Et cette actrice, je veux lui rendre hommage parce que c'est peut-être une de mes actrices préférées de tous les temps. C'est une femme incroyable. Elle était donc actrice, mais aussi chanteuse. Et c'était la grande reine de la chanson cantonaise dans les années 80, de la cantopop des années 80-90. Et 89, c'était vraiment son année parce qu'elle venait de remporter un prix d'interprétation pour le film Rouge de Stanley Kwan. Et on la voit dans le Syndicat du Crime 3 où elle joue cette femme incroyable, Kit, qui est cette grande femme d'influence. Mais on la voit aussi dans Big Brother de Jackie Chan, où elle fait montre de ses talents de chanteuse et de danseuse. Et Anita Moy, c'est dommage parce qu'elle nous a quittés en 2003 à l'âge de 40 ans à cause d'un cancer du col de l'utérus. Elle a été fauchée de manière vraiment tragique. Et moi, elle était surnommée la Madonna de l'Est, en fait. Donc on revient
à
Madonna. Et j'ai toujours eu une grande préférence pour elle comparée à ses collègues que j'aime beaucoup aussi, comme Michelle Yeoh, Maggie Cheung ou Gong Li. Mais je trouve qu'elle a un charisme, cette femme, parce qu'elle est... Moi, elle est capable de m'émouvoir, mais de me faire rire aux éclats. Hein. Je vous recommande de revoir Drunken Master 2, où elle joue la belle-mère de Jackie Chan, où elle est formidable. Et pour moi, Anita Moy, elle incarne la force des femmes qu'on voit dans les films de Choi Ark et qu'on reverra dans des films comme The Lovers ou Green Snake et je l'adore. Je l'adore. Et paix à son âme parce qu'elle était vraiment formidable. Grande actrice.
Merci beaucoup Fabien pour ce message et cette effectivement pensée à Anita Moy. Voilà qui conclut parfaitement ce second thème autour de l'année 1989. Eh bien écoute, on va sans plus tarder s'en aller vers le troisième et dernier thème de notre émission. Mais on aimerait la laisser indéfiniment tourner en boucle dans notre vie. Cette musique, c'est celle d'Indiana Jones, et spécialement d'Indiana Jones, la dernière croisade, composée par l'indémodable, l'indéboulonnable, formidable John Williams. Indiana Jones et la dernière croisade, qui est un des grands films de cette année 1989 et qui va être au cœur de ce troisième thème, puisque ce troisième thème, on va le consacrer à un homme, Steven Spielberg, son réalisateur, qui en 89 sort deux films. Indiana Jones et la dernière croisade avec Harrison Ford, Sean Connery et un autre un peu moins connu qui s'appelle Always avec Richard Dreyfuss, Holly Hunter, John Goodman et la formidable Audrey Hepburn. Deux films pour un seul homme, un seul réalisateur. Et quel réalisateur, Steven Spielberg? Avant de rentrer dans le sujet, où en est la carrière de Spielberg en 89, Fabien, au moment où sortent ces deux films?
Alors, c'est vrai qu'il a amorcé... avec la couleur pourpre, une phase peut-être un petit peu plus...
85,
ouais, une phase un peu plus personnelle, ce qu'on pourrait qualifier d'un peu plus autorisante, mais on va dire qu'il se détourne un petit peu du cinéma directement commercial pour aller sur des sujets un petit peu plus sérieux. On va dire qu'il essaie d'être entre guillemets un cinéaste respectable, même s'il a toujours été.
Et parce que pour contrer, c'est E.T. 82, ouais, c'est Indiana Jones, le Temple Maudit 84. Et donc du coup, effectivement, en 85, toi tu sens un...
Ouais, il y a donc, la couleur pourpre, puis ensuite il y a l'Empire du Soleil.
Donc, en 87,
voilà,
tout à
donc
fait,
je pense que là, il est en pleine mesure de faire les films que lui, il a aussi envie de faire. Hein, donc,
il devient aussi beaucoup producteur. Hein, c'est une décennie de production. Il produit Retour à le futur, il produit de l'animation avec le Petit Pied et la Vallée des Merveilles,
de Don Bluth, Fievel,
il peut Roger Rabbit également, donc c'est une décennie aussi d'expérimentation et
Amazing Stories, hein, la série
tout à fait à cette époque. Mais après, tu l'as dit, La Couleur Pourpre et L'Empire du Soleil, même si c'est des succès critiques, c'est pas des gros succès publics, c'est quand même malgré tout des, je dirais pas des échecs, mais c'est des films qui ne fonctionnent pas si bien que ça.
Non, ce sont des films où il n'y a pas forcément la légèreté qu'on pouvait voir sur d'autres films, comme les deux premiers Indiana Jones. Et c'est vrai qu'il était prévu quand même de faire trois films Indiana Jones dès le début. Et à un moment donné, il devait quand même tenir sa promesse auprès de Lucas, de George Lucas, qui était producteur d'Indiana Jones, pour faire...
Il voulait faire un troisième et dernier film Indiana Jones, et il l'a réalisé, donc ça tombe bien, il s'est arrêté là. Et du coup...
Ah bon?
Ah bon? Non, comme ça. Non, c'est une blagounette, évidemment. Donc, du coup, 89, tu dirais qu'en 89, Spielberg est dans une période un peu plus personnelle, un peu plus... tu as testé le mot autorisante. On va dire qu'après avoir fait des films à très grand spectacle, très populaires, il s'est replié sur lui-même d'une certaine manière.
Non, c'est un terme autorisant qui est un terme vraiment français que j'aime pas du tout, mais c'est juste vraiment un terme raccourci pour expliquer qui se détourne peut-être de sujets commerciaux pour aller sur des histoires où il parle d'histoire, il parle d'autres Amériques, il parle de la Seconde Guerre mondiale aussi, donc des choses, je pense, qui l'intéressent plus maintenant. Maintenant que le pari commercial a été relevé depuis longtemps, il peut se permettre de faire des histoires autres, des histoires qui sont plus proches de son cœur, mais qui montrent Encore une fois, tout son génie de storyteller en fait.
Alors c'est vrai que d'un côté en 89, on a donc Indiana Jones, la dernière croisade, qui raconte Indiana Jones qui apprend que son père, le professeur Henry Jones, est parti à la recherche du Saint Graal et a disparu, et donc il part à sa recherche. Il va aller jusqu'à Venise et retrouver son père, etc., etc. Ça c'est Indiana Jones. Et de l'autre côté, on a Always, qui est donc sans doute un de ses films les plus méconnus, qui raconte l'histoire de Pete, qui est un as des pompiers volants. Ces pompiers donc en avion en Canadair, qui va mourir dans une mission et qui va être envoyé sur Terre sous la forme d'un esprit pour veiller sur sa veuve Dorinda. Donc deux films comme ça apparemment très très différents, et pourtant peut-être qu'ils ont des choses en commun. Toi, comment tu rapprocherais ces deux films? Est-ce que ces deux films ont des éléments en commun selon toi?
Oui, je pense que d'abord il y a tout le questionnement de la mort qui est au centre de ces films, puisque bon bah d'un côté, on a un film où on parle de la quête du Graal, de la quête de l'immortalité. Notre héros manque de perdre son père. À un moment donné, le père manque de perdre son fils. Donc, il y a cette idée de qu'est-ce qu'on perd, quels sont les individus qu'on risque de perdre. Il y a cet aspect-là, chose qui est la thématique de Always, puisqu'il y a question de deuil et de capacité ou d'incapacité à se reconstituer après la perte d'un être cher. Il y a question aussi d'aviation.
C'est vrai, les deux.
Puisque y a une scène de poursuite d'avion très ludique dans La Dernière Croisade d'un côté, et puis on a un film de l'autre, Always, qui est un remake en plus. Hein,
oui, c'est un remake effectivement d'un film des années 40 avec Spencer Tracy.
Tout à fait, Again and Joe. Oui, tout à fait, oui, ça, Spencer Tracy. Mais qui lui était dans le cadre des pilotes de la Seconde Guerre mondiale.
Et c'est un projet de cœur, puisque Richard Dreyfuss et lui-même ont cette envie de faire ce remake depuis des décennies, ou en tout cas des années. Et du coup, c'est un projet vraiment entre Richard Dreyfuss et lui.
C'est ça.
Et ce film-là sort en 89, qui est un film visuellement assez impressionnant. Il y a des scènes d'avion et des scènes de vol et d'une beauté assez folle. Et même si le film en lui-même, effectivement, est pas plus intéressant que ça, il y a quand même des scènes et des séquences. Cette magie Spielberg qui est toujours présente, et ça vaut le détour.
Oui, il y a cette sublimation de l'avion. Moi, je me souviens de cette scène où Richard Dreyfuss et Holly Hunter marchent dans la nuit, et d'un coup, ils se tournent et on voit l'avion de Richard Dreyfuss qui apparaît comme ça, comme une apparition surnaturelle, comme par magie, sur fond bleu. Et
un peu comme dans l'Empire du Soleil.
Comme dans l'Empire du Soleil, exactement. Et puis il y a toutes ces séquences où on voit les avions s'enfoncer dans les brasiers de l'enfer.
Dans les nuages, la nuit, la séquence de fin. Enfin, c'est assez
hallucinant.
Fou. Et c'est le dernier film d'ailleurs d'Audrey Hepburn, légende du cinéma, qui accepte de sortir de sa retraite de cinéma pour faire ce dernier film où elle joue... Dieu, qu'elle joue plus ou moins l'idée de Dieu, et elle accueille Richard Dreyfuss dans l'autre monde pour lui expliquer qu'il est mort et qu'il faudra revenir sur Terre.
Tu parlais de thématique aussi, c'est vrai qu'on a, effectivement ces apparitions mythologiques.
Mm-hmm.
On a le chevalier dans Indiana Jones et Audrey Hepburn dans l'Ouest, et puis surtout on a deux visions radicalement opposées de ce que devrait être une romance. C'est-à-dire que dans Indiana Jones, tout est basé sur la trahison de la femme, sur sa duplicité, alors que dans Always, on a quelqu'un qui, au contraire...
La loyauté, quoi.
Et d'une loyauté sans faille et qui résiste pour reprendre goût à la vie, d'une certaine manière.
Moi j'avais, en réfléchissant à ça, j'ai trouvé, c'est une idée que j'ai depuis des années, je trouve que cette période 89 et les années qui vont venir après, on va en parler, mais je trouve que 89 est selon moi une année assez importante, puisque on a deux films, Always et La Dernière Croisade, tu l'as dit, qui sont sur quand même ces idées de let it go. De il va falloir laisser partir quelque chose d'une certaine manière. Il y a cette scène dans La Dernière Croisade où à la toute fin Indy est à ça de choper le Graal et Henry lui dit non, let it go, ne le chope pas, reste avec moi et tu préfères avoir ta vie et vivre avec ta vie plutôt que d'avoir cet objet. Et Holly Hunter dans le film Always, il y a aussi ce côté de Richard Dreyfuss, il a ce côté de il faut que je laisse ma femme partir et il faut que je la libère entre guillemets pour partir avec, parce qu'il y a un autre homme dans l'histoire et il faut que je la laisse partir aimer quelqu'un d'autre et parce que moi je suis mort et donc il y a cette idée de let it go. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une année quand même assez importante, puisqu'on va le voir en 89 il y a donc ça et quelques années plus tard on va avoir Hook, puis La Liste de Schindler et plus Jurassic, et c'est des années comme ça qui vont être pour moi cruciales dans la carrière de Steven Spielberg, et assez charnières, puisqu'on va partir peut-être avant 89, on a ce Spielberg qui va être dans ce genre de film de fascination, d'un film de l'enfance, du film de jeu, du film de ludique, et à partir de 89, 91, 93, doucement on va glisser sur des films. Hook aussi, hein. Hook est un film sur le let it go. Hook, c'est comment abandonner une certaine, un certain un certain soi, une certaine version de soi-même qu'on a été à un moment donné. Il faut laisser partir l'enfant qu'on a été pour rentrer dans le monde adulte, accepter la part d'adulte. Et qu'est-ce qu'il fait dans les années 90, Spielberg ? Il va partir vers un cinéma plus politique, plus mature, plus, je n'aime pas ce terme, mais effectivement adulte, où on va voir Les Yeux de Schindler, Amistad, Soldat Ryan, Minority Report, Munich. Et du coup, on va dire, c'est comme si, à partir de 89, La Guerre des Mondes, comme si à partir de 89, Spielberg entamait un long processus créatif de te dire il va falloir que je fasse autre chose que ces films, on va dire, de fantasmes, d'illumination, d'émerveillement. Il va falloir que je rentre dans le vrai monde et qu'en tant que cinéaste important, il faut que je donne ma voix, que je fasse entendre ma voix sur ce qui est important, c'est-à-dire notre histoire actuelle, passée. Et maintenant, aujourd'hui, Spielberg est l'un des cinémas cinémastes, les politiques les plus percutants. On l'a vu avec West Side Story, on l'a vu avec Pentagon Papers, on l'a vu avec Lincoln et d'autres. Donc c'était assez saisissant. Tu dirais toi aussi que cette année 89 est une année charnière chez Spielberg ?
En revoyant les deux films, je me rends compte qu'on peut pas décorréler, on va dire, l'aspect franchise comme Indiana Jones de quelque chose de très plus personnel comme Always. C'est-à-dire que d'une certaine manière, tous les films se répondent entre eux et chaque film est vraiment une brique d'une œuvre parfaitement cohérente. Mais il travaille aussi sur des notions d'espace, dans tous les cas. Je veux dire, cette façon de filmer les rocheuses au début d'Indy, et puis les grandes forêts dans l'Ouest. Il travaille aussi sur des espaces américains qu'il met remarquablement en scène. Ce qui m'intéresse quand je revois La Dernière Croisade aussi, c'est son scénariste Jeffrey Baum. Jeffrey Baum qui venait d'écrire L'Aventure intérieure, et qui venait d'écrire L'Arme fatale 2. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé sur cette notion de buddy movie, mais aussi d'avoir deux individus qui s'opposent ensemble, mais qui sont obligés de travailler ensemble finalement, parce que L'Aventure intérieure, ce sont deux personnages qui sont dans le même corps, qui doivent cohabiter, collaborer. L'Arme fatale, on n'a plus besoin de représenter ça, de dire ce que c'est. Et puis Indiana Jones, finalement, La Croisade, c'est comment ce père et ce fils vont se retrouver et vont devoir trouver des moyens de communiquer et de collaborer ensemble vers un but commun. Et à la fin, finalement, le Graal n'est pas aussi important que la quête de retrouver l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a retrouvé son père et l'autre qui... Le père qui finalement fait aussi du let it go en disant Indiana.
Ouais.
Il arrête de l'appeler Junior, il l'appelle Indiana.
Et ça, c'est le moment-là. Oh là là.
Et je veux dire, on pourra toujours débattre sur quel est le meilleur Indiana Jones.
Et pourquoi c'est La Dernière Croisade ?
Parce que moi c'est le premier que j'ai vu, c'est celui que j'ai le plus vu, en fait, parce qu'il y a un cœur dans cette histoire, il y a un cœur émotionnel qui je trouve est le plus puissant de tous, en fait. C'est-à-dire interroger la paternité, je pense que c'est aussi une des grandes quêtes de Spielberg, mais moi c'est aussi ce qui me plaît quand je revois la Dernière Croisade, c'est interroger toute la dimension mythologique d'un personnage comme Indy. C'est-à-dire, on fait peu de films sur des origin stories dans les années 80, et là on a ce segment au début où on nous montre la construction de avec River Phoenix, enfin Supercell, où on voit toute la construction de la persona Indiana Jones, avec donc le fouet, la cicatrice et le chapeau. Et c'est marrant parce que finalement tout vient, encore une fois, du regard sur une autre personne. Indy est forgé par son père, mais il est forgé aussi par cet aventurier qui lui donne
le
chapeau. Et il y a cette transition que je trouve géniale, où il lui baisse la tête avec le chapeau, cut, transition sur Harrison Ford qui se relève sous la pluie.
Souriant. Et il se prend une droite.
Et il se prend une droite. Et ça, c'est la force de la mise en scène de Spielberg dans les Indiana Jones. C'est-à-dire qu'on a toujours ces gros plans sur Harrison Ford qui se prend toujours des trucs où il y a quelque chose qui va surgir dans le champ pour lui foutre une claque. Et là,
on dirait que ça l'amuse. On dirait que ça l'amuse de foutre des tartes à Harrison Ford.
Et là, je renvoie à l'épisode que tu as fait avec Thomas Destouches sur Harrison Ford, sur l'année 90, où effectivement, Harrison Ford, c'est une vraie gueule de cinéma, et je trouve qu'il n'y a que Spielberg qui le filme comme il le filme dans Indiana Jones, c'est-à-dire avec ces espèces de gros plans où il est triste, où il est déçu, où il est souriant, où à chaque fois il se reprend des trucs, où des fois il va face à la caméra et puis il va repartir dans l'autre sens comme dans le Temple maudit. Et je me souviens qu'il y a cette scène où il apprend que Elsa l'a trahi, Et à cette caméra qui va sur lui, et genre lui se retourne vers la caméra en mode « Mais mon monde s'écroule, je suis trahi par ma copine nazie, quoi. » Et c'est génial. Et c'est génial. Et il y a un ludisme dans la dernière croisade, enfin toute la scène avec les mouettes là, sur la plage qui est génial. Il y a l'échange entre les deux dans le zeppelin.
C'est Sean Connery, quoi.
Sean Connery. Voilà, quoi. Sean Connery qui est est-ce que c'est pas un peu l'immortel des années 80, Sean Connery?
James Bond dans le même film.
Voilà, et puis c'est Ramirez dans Highlander, déjà un immortel. Voilà. On interroge de l'immortalité chez Sean Connery. Vous avez 2 heures.
Mais oui, du coup, on évoquait l'intime chez Spielberg. Ouais. On parlait de le fait comment il parle de la paternité, comment il parle de la mort et tout ça, et comment doucement il va commencer à prendre en compte tous ces éléments-là pour les mettre dans son cinéma. 89, on l'a dit, c'est 2 films de Spielberg, mais c'est aussi un événement dans la vie intime du réalisateur, puisque c'est l'année de son divorce avec Amy Irving, qui est sa première femme.
Parti potin.
Voilà. Et il va quitter cette femme pour aller avec Kate Capshaw, qui est donc l'actrice du Temple Maudit, avec qui il est toujours aujourd'hui, 33 ans plus tard, et avec qui il a eu moult rejetons. C'est quand même fou, on se retrouve avec quelqu'un qui fait 2 films sur le Let It Go, sur le moment de laisser partir des choses, au moment où il signe un divorce avec une personne qui a été son partenaire pendant une décennie, voire plus. Et du coup, j'avais une question, moi, je me disais, en quoi la vie intime de Spielberg et d'un réalisateur a-t-elle pu inspirer sa carrière et son œuvre?
Alors, je sais pas. Alors, est-ce que...
Je te prends un peu au dépourvu.
Est-ce que le personnage d'Elsa et sa trahison perpétuelle reflètent une espèce d'état d'énervement absolu de Spielberg à cette époque-là? Je ne sais pas.
Mais c'est vrai que c'est un élément qu'on oublie souvent parce que nous, on regarde les carrières, on regarde les films, et puis on a un regard forcément artistique, forcément cinématographique, mais on oublie que ces objets, c'est des mois, années, des décennies de travail. Là, on a le Pinocchio de Del Toro qui sort sur Netflix en décembre. C'est un film sur le deuil et sur la mort et sur plein de choses. Et Del Toro, dans 5 ans, il a perdu son père et sa mère. Donc, on oublie que ces films-là sont aussi des objets intimes.
Je pense.
Et du coup, je posais cette question de savoir en quoi l'intime pouvait comme ça infiltrer les œuvres des gens qu'on admire. Et je trouvais que cette année 89 n'était pas anodine par rapport à ça.
Non, c'est sûr, mais bon, je préfère plutôt croire que son état d'esprit était plutôt comme dans Always, ou qui est une conception plutôt
apaisée,
bienveillante vis-à-vis de l'autre.
Je pense qu'il n'y a pas de...
C'est ce que je préfère, mais en tout cas, je pense surtout à Black Rain de Ridley Scott de 89, dans lequel on a Cape Cacho qui est superbe. mais voilà, histoire de caser un autre film. Mais non, mais jusqu'à quel point est-ce que ça...
Et puis comment des années après il fait effectivement Les The Schindler, alors qu'il a dit que Kate Capshaw c'était une femme qui l'avait réconciliée avec sa judaïté, avec son judaïsme. Donc tu vois, c'est pas anodin, encore une fois, que bien sûr c'est des projets qui s'entrelacent et il y a plein de facteurs, mais c'est pas anodin que finalement cette transition se fasse aussi grâce à des personnes qui sont dans sa vie de manière intime.
Par rapport à ce que tu dis, l'idée d'opposer 2 versions différentes de la notion de romance à quelques mois de différence, je trouve ça assez passionnant. Mmh. Et c'est vrai qu'en revoyant Always, cette complicité entre Richard Dreyfuss et Holly Hunter, notamment cette scène où il doit lui offrir ce cadeau, cette robe, où il finit par jeter le paquet parce qu'elle ne veut pas le paquet, parce qu'elle est furieuse, enfin, je trouve que c'est une des plus belles scènes de complicité amoureuse de son œuvre.
Donc voilà, voyez Always, qui est un film méconnu de Spielberg, qui a comme ça quelques scènes, quelques moments pépites, et qui est un très beau film malgré tout. Voilà qui conclut ce 3e et dernier thème sur Spielberg et sur cette année 1989. Et comme d'habitude, on va pas se quitter sans vous partager nos petits coups de cœur de cette année 89. On est parti pour nos recommandations. Nos petits coups de cœur de l'année 89. Toi, Fabien, est-ce que tu avais d'autres coups de cœur à partager comme ça aux auditeurs? On a parlé de plein de choses, de Batman, de John Woo et de Sawyer, des films de Spielberg, mais il y a d'autres films en 89 qui valent le détour. Toi, quels étaient les films dont tu voulais parler?
Il y en a tellement.
Si tu pouvais en choisir un ou deux.
Alors, je vais en prendre 2 côté Japon. Le premier est un film d'animation qui est Pat Labor de Mamoru Oshii, donc qui est la version cinéma de cette célèbre franchise Mecha, qui est une enquête futuriste contemplative, métaphysique, avec des mechas et des enquêteurs.
Ça a l'air donc forcément génial.
C'est un de mes films de mecha préférés, c'est une de mes œuvres mecha préférées. Musique de Kenji Kawai absolument
formidable.
Ouais. Il n'y aura pas de La Bordeaux aussi en 93 qui sera encore plus chef-d'œuvresque que celui-là. Mais moi, c'est un film qui m'a vraiment marqué. Je pense que c'est un de mes films d'animation japonais préférés de tous les
temps. Pat Labor,
ouais, de Mamoru Oshii, 1989. Scénario de Kazuno Ryuto, qui plus tard écrira Ghost in the Shell. Et l'autre film, c'est Kaiju oblige, un monstre géant oblige.
T'es obligé, je t'ai invité pour ça, t'étais obligé de caser un kaiju.
Je veux parler de Godzilla contre Biollante, qui est le 17e film de la franchise Godzilla et le deuxième film de la deuxième ère Godzilla, donc l'ère SAI, qui est un film dans lequel Godzilla est opposé à une créature qui est issue des manipulations génétiques. Donc un film dans lequel Godzilla s'oppose à Biollante, qui est un mélange entre des cellules de Godzilla, une rose, dans lequel se serait infiltrée l'âme d'une jeune femme morte, en fait. Donc c'est un film qui, on vient à Spielberg, 4 ans avant Jurassic Park, aborde le thème des manipulations
Déjà génétiques. Ça rentre dans la société, donc ça arrive dans le cinéma.
Les manipulations génétiques, ouais. Et c'est un des plus beaux Godzilla en termes d'effets spéciaux, clairement. Le design de Godzilla dans ce film est fabuleux. Biollante, qui passe par différentes transformations, est une créature végétale tout à fait saisissante, qui était animée par plusieurs marionnettistes sur le tournage des effets spéciaux. Donc c'est un film assez saisissant, un petit peu tortueux en termes d'intrigue, parce qu'il y a beaucoup de thèmes comme ça qui s'empilent les uns sur les autres, mais moi c'est un de mes Godzilla préférés, et c'est un des films les plus ténébreux, les plus métaphysiques de la saga. D'accord. Godzilla contre Biollante, 1989, de Kazuki Omori, cinéaste qui vient de nous quitter récemment, et ça permet de lui rendre hommage.
Merci pour ces deux recommandations, Fabien. Deux recommandations japonaises. Vous avez de quoi voir, en tout cas, si vous êtes curieux. De mon côté, ma petite recommandation sera plus occidentale, en tout cas, puisque ce sera Calme Blanc de Philip Noyce, Dead Calm, qui est l'histoire d'un couple qui, pour oublier la mort accidentelle de leur fils, partent sur un bateau au milieu de l'océan. Ils vont bientôt porter secours à un homme en train de couler, mais ils ne savent pas que cet homme-là est un dangereux psychopathe. Ouais. Et donc c'est un film qui, vous l'avez compris, se passe comme ça, c'est un espèce de huis clos maritime qui se passe comme ça sur un bateau et demi pendant 1h30, 2h. Donc c'est un thriller assez nerveux, un poil érotique, mais assez malin, avec comme ça un pitch redoutable et surtout un casting de qualité, puisqu'on a Sam Neill qu'on retrouvera donc dans la leçon de piano dans Jurassic Park plus tard, on a Billy Zane, le fameux méchant de Titanic, et on a surtout une Nicole Kidman pré-Hollywood, donc pré-Tom Cruise, etc. etc. Donc Nicole Kidman en full actrice australienne avant qu'elle soit, on va dire, connue, et c'est comme ça un petit film que je trouve méconnu et qui mérite, on va dire, de jeter un œil. C'est signé donc par l'Australien Philip Noyce, qui a signé après Bone Collector et Jeu de guerre avec Harrison Ford, justement. Voilà, donc c'est ma recommandation. C'est un film excellent et que je vous conseille. Voilà, Calme Blanc de Philip Noyce, c'est ma recommandation pour cette année 1989. Voilà qui conclut cette émission d'Année Lumière consacrée donc à 89. Merci à mon invité Fabien Moreau. Merci beaucoup, Fabien.
Bah écoute, grand plaisir, Thibaut. Enfin, un grand merci à toi, surtout. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi autour de cette année 89.
C'était un plaisir partagé, Fabien. Merci à toi. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur, qui justement en décembre sort un numéro avec un entretien exclusif de Steven Spielberg. Donc n'hésitez pas à aller le chercher en kiosque. Merci également à Tsugi Radio qui nous accueille dans leur studio de la Villette à Paris. Merci également à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas de partager l'épisode et de suivre le compte Twitter d'Année Lumière et de soutenir l'émission, même modestement, via le site ou l'application Utip, UTIP. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous.